Vous écoutez
RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
11h06 sur RMC Mobilisation Générale jusqu'à 13h. C'est le dernier week-end de cette émission et on vous en parlera tout à l'heure. La semaine prochaine, nous revenons aux grandes gueules du sport, mais aussi à un nouveau jeu, RMC Sport Game. On vous en parle tout à l'heure. Dans quelques heures maintenant, la France sortira donc à son tour du confinement dans lequel elle est enfermée depuis le 17 mars dernier. Guillaume, 8 semaines qui ont permis de sauver des milliers de nos compatriotes, mais qui ont également mis à genoux l'économie française. Du coup, l'objectif, c'est évidemment de ne pas avoir à recourir dans les semaines à venir à un nouveau confinement. Et pour cela, Guillaume, il faut donc éviter cette fameuse deuxième vague redoutée de tous.
Oui, et on va en parler dans quelques instants, effectivement, avec Nicolas Hurtel, psychiatre, médecin-chercheur de l'APHP, et Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Tous deux seront avec nous dans quelques petites secondes. Au sommaire de cette deuxième heure également, c'est une victoire pour la Bretagne, pour les Bretons qui vont pouvoir retrouver leur littoral après l'annonce du gouvernement d'autoriser leur réouverture sur demande des maires. Plusieurs maires se sont d'ailleurs déjà manifestés avec nous. Pour en parler tout à l'heure, Loïc Chesnay-Girard, président du conseil régional de la Bretagne. Et puis c'est une tradition dans notre émission, un peu notre moment cuisine du week-end dans cette émission. Vous pensez que vous n'avez plus d'idées recettes? Eh bien non, nous allons vous apporter la solution avec notre chef cuisinier Yves Cannebord. Et puis nous parlerons sport également jusqu'à 13h avec le championnat allemand de football qui reprend la semaine prochaine. Mais dans quelles conditions, nous vous dirons-t-on? Nous vous dirons tout, sans oublier une star qui suscite toujours autant d'intérêt et de passion. On parle ce matin de Michael Jordan et de ce documentaire qui lui est consacré, The Last Dance.
La deuxième vague, voilà le nouvel ennemi désigné de notre pays et de tous les pays du monde d'ailleurs. Alors si pour certains spécialistes, cette deuxième vague est du domaine du mythe, pour d'autres, elle ne fait aucun doute et pourrait et devrait même frapper la planète dans les semaines ou les mois qui viennent. Pour évoquer cette deuxième vague et les moyens de l'éviter, de l'endiguer, nous accueillons dans Mobilisation Générale le docteur Nicolas Hurtel, qui est psychiatre à l'hôpital Corentin-Selton d'ici les Moulineaux et modélisateur à l'APHP. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Alors modélisateur, là aussi c'est un nouveau mot que les Français apprennent à découvrir. En quoi consiste ce travail et comment avez-vous procédé pour mener cette étude qui justement modélise en quelque sorte, c'est ça, l'épidémie dans les semaines ou dans les mois à venir?
Oui, tout à fait. L'idée est d'utiliser finalement toutes les données, donc de créer une photographie à un instant T. Mmh. Qui repose sur les dernières données connues à ce jour concernant les caractéristiques du virus et le nombre de cas officiellement rapportés en France. Donc l'idée, c'est d'intégrer tous ces paramètres dans un modèle afin de pouvoir évaluer l'évolution de l'épidémie et surtout de pouvoir nous permettre d'avoir des estimations de l'effet de différentes mesures qui vont être d'ailleurs appliquées après le confinement sur l'évolution de l'épidémie. Puisqu'effectivement, il s'agit aujourd'hui, découvre une épidémie avec un virus qui était inconnu jusque-là. Et effectivement, les modélisations constituent l'un des seuls outils dont on dispose aujourd'hui, en l'absence de connaissances antérieures, pour pouvoir juger des mesures les plus efficaces pour, évidemment, ralentir la circulation du virus, réduire le nombre de cas et, évidemment, réduire le nombre d'essais qu'il faudrait déplorer.
Alors, dans votre modélisation, vous avez donc pris en compte les mesures qui vont être adoptées pour ce déconfinement, à savoir donc le port du masque, les distances respectées, on l'espère en tout cas dans les moyens de transport. Tout ça est pris en compte et malheureusement, même avec cette prise en compte de toutes ces mesures, vous arrivez à des chiffres qui font froid dans le dos, docteur Hurtel.
Alors oui, alors peut-être la première chose, c'est on s'est intéressé à l'efficacité du confinement. Mm-hmm. Et je crois que c'est important de le dire, après 8 semaines de confinement, notre travail suggère que le confinement était très efficace, à la fois pour contenir l'épidémie, également pour réduire la mortalité, puisqu'on estime que près de 100 000 vies auraient été sauvées du fait de ce confinement. D'accord. Et évidemment d'avoir permis de prévenir une saturation de notre système de santé.
Donc 100 000 vies sauvées grâce au confinement pendant 8 semaines. Ça, c'est le premier chiffre.
Mais ça, l'autre point, c'est que les mesures de distanciation physique et de port du masque obligatoire, on observe que ces mesures seraient très efficaces à la fois pour ralentir l'épidémie, pour réduire la mortalité de manière très importante. Mais effectivement, les résultats de notre modèle indiquent que ces mesures pourraient s'avérer insuffisantes à terme et que cela ne permettrait peut-être pas de prévenir à terme une suroccupation des lits de réanimation. Quand je dis à terme, ce serait sur un horizon de 2-3 mois. Et en cas de cette suroccupation, d'aboutir à une situation similaire à laquelle nous avons vécu, c'est-à-dire la nécessité d'un second confinement.
Donc ça, c'est même avec les mesures qui vont être appliquées pour ce déconfinement, vous nous annoncez une deuxième vague qui arriverait quoi, d'ici le mois d'août, le mois de septembre ?
Alors voilà, je pense que ce qui est très important aussi pour nos auditeurs, c'est qu'il faut bien percevoir que ces mesures sont très efficaces, elles sont très importantes à suivre.
Oui, efficaces, mais qui ne parviennent pas à empêcher la deuxième vague quand même, ce que
voilà.
Vous dites.
Voilà, cependant, ce qu'on voit, effectivement, ce qu'on voit dans notre travail de modélisation, c'est qu'on pourrait craindre, voilà, en tout cas dans les limites de notre modélisation, on pourrait craindre effectivement qu'il y ait un second pic, et que ce second pic, que ce risque soit tellement fort que même ces mesures ne puissent pas suffire. Mais on a envisagé un autre scénario supplémentaire, c'est-à-dire à la fois ces mesures de distanciation physique et de port de masque, mais également des mesures de protection renforcée des personnes les plus à risque d'infection sévère. Qu'est-ce que j'entends pour ces personnes ? C'est-à-dire les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies chroniques, notamment pulmonaires et cardiaques. Et si cette population spécifique prend conscience que cette population est exposée à un risque plus fort que le reste de la population, eh bien, on observerait dans ce cas que l'association de ces trois mesures, de distanciation physique, de port de masque et de mesures de protection renforcée de la population à risque, permettrait une diminution encore plus forte de la mortalité et permettrait d'éviter cette suroccupation des lits de réanimation et donc de second confinement.
Mais pour l'instant, on n'y est pas, hein, puisqu'on le rappelle, les personnes âgées ou les personnes présentant des risques vont être soumises finalement aux mêmes règles de déconfinement que le reste de la population. Il n'y a pas de mesures particulières. Donc vous appelez finalement à la conscience de ces gens-là pour éviter la deuxième vague. Mais encore faut-il que cela soit appliqué, que les gens l'entendent et le respectent.
Alors, je pense que si vous voulez, ce qui est très important, c'est déjà une prise de conscience que ce risque existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas la seule équipe à pouvoir à anticiper ce risque. Beaucoup d'équipes parlent de second pic. Moi, je pense que ce qui est important, c'est dans toute situation, voilà, comme dans le métier d'un médecin, c'est de regarder, je dirais, froidement le réel, d'anticiper le pire et d'espérer le meilleur. Moi, si vous voulez, moi, je pense que, en tout cas, dans un scénario qui serait le pire, eh bien, on observe que s'il y a à la fois un respect, je dirais, une bonne application de ces mesures de protection par la population, donc d'application de cette distanciation physique et de port du masque, et que la population la plus à risque soit consciente qu'elle est exposée à un risque beaucoup plus important d'infection sévère, et une prise de conscience de la population, je dirais, à moindre risque, qu'il s'agit de bien appliquer ces mesures pour protéger notamment les personnes les plus vulnérables, eh bien, on voit que même dans des estimations les plus pessimistes, eh bien, ça nous permettrait d'éviter une résurgence épidémique qui pourrait conduire à une suroccupation des lits de réanimation et à un second confinement.
Nicolas, une question qui me vient, vous parlez de simulation, d'anticipation, à quel point finalement on peut se fier, on peut croire à ce qui est, si je vous écoute bien, des projections mathématiques ?
Je crois que c'est un point important. Effectivement, la grande difficulté, c'est qu'on ne peut vérifier une projection qu'en observant le réel dans le futur. Là, ce que je pense qui est très important, c'est de savoir qu'il y a des limites à tout travail de modélisation. Premier point, c'est que c'est à considérer comme une photographie à un instant T et que ça repose sur les dernières données connues à ce jour concernant les caractéristiques du virus et le nombre de cas officiellement rapportés en France. Mais il est évident que ces estimations pourraient être différentes si le virus se comporte différemment après le confinement qu'avant celui-ci. Par exemple, du fait de l'effet de la saisonnalité qui est rapporté par certains chercheurs, ou bien de la découverte d'un traitement efficace. Mmh. Et un autre point, ces estimations pourraient être différentes si preuve est faite, par exemple, que le début de l'épidémie en France soit survenu en fait beaucoup plus tôt que l'on ne le croit.
Oui. Oui, c'est possible. Il y a des éventualités. Enfin, on nous dit que ça aurait pu arriver dès le mois de décembre. Vous nous parliez effectivement de phénomènes qui pourraient empêcher cette deuxième vague, certains le disent. Certains chercheurs nous disent, mais sans apporter de preuves, qu'effectivement le virus pourrait disparaître aussi vite qu'il est apparu, avec l'effet de la chaleur, l'effet des fenêtres ouvertes en été, à la différence des appartements très confinés au mois de décembre, au mois de janvier. Ça, c'est difficile à modéliser. Ça, vous ne pouvez pas le prendre en compte, évidemment, dans un modèle mathématique.
C'est-à-dire que ce qui est difficile, ou si vous voulez, évidemment, il faut bien concevoir que tous les modélisateurs du monde, et notamment ceux qui rapportent des estimations, je dirais, pessimistes, espèrent se tromper. Et il faut le savoir qu'évidemment, ce que je souhaite, c'est que, qu'effectivement, ces personnes puissent avoir raison. Mais, comme je le disais, on a besoin de preuves scientifiques. Aujourd'hui, effectivement, cette saisonnalité, cette hypothèse est surtout fondée sur des études in vitro. C'est-à-dire qu'on sait que le virus est sensible à la chaleur et aux UV. Mais force est de constater, par exemple, que au nord du Brésil, où il fait très chaud, le virus actuellement circule beaucoup.
Ouais. En Afrique, où il fait très chaud aussi, c'est pour l'instant le continent le moins touché par la maladie, alors qu'on nous annonçait la catastrophe en Afrique. Donc ce virus est très difficile à appréhender parce qu'il ne se comporte pas de la même façon sur les différents points du globe.
Alors tout à fait, je pense qu'il y a une certaine humilité à avoir, bien évidemment. C'est pour ça que je vous disais qu'on essayait d'utiliser les dernières données actuelles qu'on intégrait, qui peuvent changer. Alors c'est vrai que certains auteurs rapportent que spécifiquement pour le continent africain, l'une des explications sur le plus faible nombre de cas est le fait que la population soit plus jeune qu'en Europe. Donc il y a aussi des hypothèses alternatives. Je pense qu'il s'agit de considérer, comme vous disiez, d'espérer le meilleur, c'est-à-dire que finalement le virus soit beaucoup moins agressif après qu'on découvre qu'il est beaucoup moins agressif après le confinement. Mais je pense qu'il s'agit d'envisager sérieusement aussi les pistes qui consisteraient à dire que ces hypothèses ne seront pas vérifiées, que la saisonnalité n'aura pas d'impact, par exemple, et de se préparer, si je puis dire, au pire, et de voir quelles mesures permettraient d'éviter ce second pic si le scénario le pire se présente à nous, et bien évidemment d'espérer que l'on s'en trompe et qu'un certain nombre de caractéristiques du virus nous conduisent à dire que le virus serait moins agressif après le confinement et par conséquent on se sera préparé et on pourra avoir, si je puis dire, une bonne surprise.
Nicolas Hurtel est avec nous, psychiatre, médecin-chercheur de la PHP. Très rapidement, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire, vous faites partie de l'assistance publique hôpitaux de Paris, on évoque avec vous cette possibilité de deuxième vague. Est-ce qu'à Paris, on pourrait faire face à une deuxième vague ou est-ce que ce serait extrêmement compliqué selon vous?
De faire face à une seconde vague
dans les hôpitaux,
globalement France.
Dans les hôpitaux.
Dans les hôpitaux d'Île-de-France, par exemple.
Voilà, bien évidemment, on sait que la première vague a soumis à rude épreuve l'ensemble des équipes, des soignants qui ont fait face, je le dis pour tous mes collègues, notamment de réanimation, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de courage. Les équipes sont fatiguées. Là, effectivement, on voit que le nombre de personnes hospitalisées diminue et on est heureux que le nombre de personnes qui guérissent sortent de plus en plus des hôpitaux. Mais évidemment, de même quand on anticipe ce pic, aussi de d'anticiper les besoins hospitaliers, mais également de renouveler les équipes de telle sorte à ce que les équipes puissent se reposer un temps si jamais un second pic devait survenir. Mais je sais que toute l'assistance publique actuellement est faite afin d'anticiper potentiellement, je dirais, le pire, ce deuxième pic, et font tout afin que les équipes soient le plus préparées.
Docteur, dernière question. Si aucun vaccin n'est trouvé et si le virus continue de s'attaquer à tout le monde, est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez pu modéliser dans votre étude le moment où l'immunité collective permettra justement au virus de disparaître complètement? Parce que là, on a l'impression qu'on est quand même engagé dans une très longue période avant de se débarrasser complètement de cette histoire-là.
Alors tout à fait. Alors ça, c'est également un sujet de débat intense dans la communauté scientifique. Ce que nous on observe avec nos données de modélisation, c'est que le pourcentage de population infectée nécessaire pour atteindre cette immunité de groupe, c'est-à-dire de telle sorte que le virus ne circule plus et que l'épidémie puisse s'éteindre, est variable selon un certain nombre de caractéristiques du virus. Ce que l'on sait, c'est que le fait de freiner la circulation du virus, notamment avec la distanciation sociale, le port de masque et les mesures renforcées pour les personnes âgées, permet d'abaisser ce seuil, c'est-à-dire d'abaisser le nombre de personnes nécessaires en termes d'infection pour que l'épidémie disparaisse. Mais donc, si vous voulez, on entend souvent le chiffre de 60%. Mmh. En fait, ce chiffre, c'est un chiffre que l'on trouve, nous, dans notre modélisation, et pourrait même être inférieur à 60% en cas d'application très stricte de ces mesures barrières.
Très bien. Eh bien, écoutez, nous verrons ça. On espère que vous vous trompez, docteur Hurtel. Hein. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. On le souhaite vraiment de tout cœur, même si votre modèle est très bien pensé. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, de nous avoir expliqué donc la crainte de cette deuxième vague. Autre médecin qu'on accueille tout de suite.
Pour
Guillaume.
Reparler, ouais, effectivement, de l'éventualité de cette deuxième vague, c'est Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, qui nous rejoint sur RMC à 11h21. Bonjour, Jean-Paul.
Bonjour Jean-Paul. Est-ce que le docteur Hamon est avec nous?
Vous m'entendez pas là?
Ça y est, on vous entend.
Vous entend.
On vous entend.
Vous nous entendez?
Bon, mais fait peur. Ouais.
Non, on est bien là. Docteur, première question. Vous avez été très fatigué, on le sait, après avoir contracté le Covid-19. Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui?
Oh bah oui. Maintenant, ça fait 4 semaines que j'ai repris complètement le travail. Mais c'est vrai que la première semaine de reprise a été un peu dure, mais maintenant tout va bien. Je trouve que je m'en sors bien, vu tout ce que j'ai vu autour de moi.
Les médecins généralistes, docteurs, vont être en première ligne dans le contact tracing, autrement dit la recherche des contacts pour les malades du Covid. Concrètement, les médecins généralistes sont invités à signaler à l'assurance maladie les cas positifs et puis les cas de contact au Covid-19. Quelles sont les premières remontées de terrain que vous avez, vous?
Alors, écoutez, il y a eu toute une discussion sur la violation du secret médical du côté des médecins et puis sur le risque de flicage du côté des patients. En fait, on est face à une épidémie qui peut être mortelle, tout le monde le sait maintenant. Et les médecins généralistes qui auront un cas positif en consultation, discuteront avec le patient des signes qui devraient le faire alerter s'il y avait un problème, d'une part. Donc, ce sont des consultations qui ont été reconnues longues et complexes par la caisse d'assurance maladie. Avec l'accord du patient, on mettrait le nom du patient sur le site de la Sécurité sociale, le site Amélie, sur lequel je mets des choses beaucoup plus confidentielles que ça, puisque quand on demande une prise en charge à 100% à un patient qui a un cancer, qui a un infarctus, qui a la tuberculose, ça se fait depuis longtemps et jamais le site de la Sécurité sociale n'a violé le secret médical. Donc le Covid-19, qui n'est quand même pas une maladie honteuse, mais qui est une maladie extrêmement contagieuse, on signale le cas qui est positif et le service médical, je répète bien, le service médical de l'assurance maladie qui est tenu au secret professionnel contacte le patient pour identifier les personnes qu'il a pu côtoyer ou qu'il aurait pu contaminer. Et à partir de là, le service médical de l'assurance maladie contacte les patients qu'il aurait pu contaminer, les met en rapport avec leur médecin traitant pour qu'il les fasse tester. Donc cette procédure, elle est parfaitement sûre, elle est confidentielle et il n'y a pas du tout utilisation de fichiers. Parce que les gens qui protestent actuellement contre la violation des données du secret professionnel ou je ne sais qui, prennent rendez-vous sur Doctolib ou sur des autres plateformes de rendez-vous en ligne. Ils donnent leur adresse, leur téléphone portable, leur mail. On sait quel médecin ils vont consulter. Et bien souvent, chez des spécialistes, on connaît le motif de la consultation et je n'ai jamais entendu personne râler sur l'utilisation de ces données et de s'inquiéter ni de la confidentialité de ces données. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de secret médical. C'est un listing qui protège, qui permet de contenir l'épidémie, rien de plus. Et avec le service médical, j'ai entièrement confiance, il n'y aura aucune utilisation de fichiers et il n'y aura aucune violation du secret professionnel.
Ouais. Mais c'est vrai que dès lors qu'on parle de numérique, ça inquiète le grand public, même si évidemment vous le rappeliez, on donne ces données régulièrement et des données sans doute un peu plus sensibles. Est-ce qu'il y aura l'obligation pour les malades, pour les patients qui seront détectés Covid-19, de qu'on communique leurs informations finalement à la sécurité sociale, ou est-ce qu'ils peuvent dire non, j'ai pas envie qu'on le sache? Est-ce qu'ils auront cette possibilité ou non, docteur?
Oui, non, bien sûr. C'est, si vous voulez, si on signale le patient, c'est avec son accord.
Bien sûr.
C'est avec son accord, mais honnêtement, je ne vois pas un patient refuser qu'on mette son nom sur le site de la sécurité sociale si on lui explique bien. Si c'est le médecin traitant qui le fait, vous savez, les patients, ils ont confiance dans leur médecin traitant. Et là, clairement, on est dans une épidémie qu'il faut contenir. Et il faut empêcher que, de nouveau, les services de réanimation soient débordés. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors moi, je défends le listing comme on l'a fait, comme il est prévu, avec le médecin traitant et le service médical d'assurance maladie. Je regrette que les infirmières libérales n'ont pas été contactées, parce que les infirmières libérales, qui font 90% de leur exercice au domicile des patients, connaissent l'environnement du patient et mieux l'environnement familial souvent que les médecins. Alors quand j'entends parler de brigades de bénévoles qui sont même pas assermentés, même pas soumis au secret professionnel, je suis un peu énervé. Je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont faire appel à l'amicale des boulistes du 15e? Vous savez, c'est absolument impressionnant, quoi. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ignorent qu'il y a 55 000 médecins libéraux, qu'il y a 110 000 infirmières libérales, donc qui sont tout à fait capables de faire ce métier, qui sont tenus au secret professionnel. Donc là-dessus, les patients nous font confiance.
Bien sûr, et c'est vrai que vous avez été un peu écarté jusque-là, que ce soit les médecins généralistes ou les infirmières libérales, auxquelles on n'a pas fait beaucoup appel. Merci beaucoup, docteur Hamon. On a entendu votre coup de gueule donc contre cette situation, et aussi sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de donner ces données justement concernant le Covid. 11h27, on va accueillir une infirmière, justement pas une infirmière libérale, une infirmière hospitalière, Guillaume, qui justement a été confrontée à cette première vague.
Oui, c'est Johanna qui est avec nous, effectivement, infirmière à l'unité Covid de Lyon. Bonjour Johanna.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Première question, comment allez-vous? Un peu la même question qu'avec le docteur Hamon. Comment vous avez vécu ces deux mois d'activité particulièrement intense?
Ça va. Après, c'est vrai que on commence à ressentir la fatigue de ces deux mois. Le fait d'être revenu sur des jours de repos, d'avoir travaillé plus, et puis aussi le fait de porter un masque pendant 12 heures, c'est extrêmement fatigant. Donc, on n'en voit pas le bout.
Alors, même si, on peut le rappeler, le conseil scientifique, dans l'un de ses avis, avait insisté sur le fait que les soignants, après ce travail acharné, pouvaient prendre des congés. Est-ce que vous allez pouvoir vous reposer quelques jours ou pas?
Oui, on peut. Nous on travaille en 12 heures, ce qui fait que globalement on peut avoir une semaine de repos à peu près par mois. Cette semaine-là, je l'ai pas prise depuis deux mois maintenant. Mais il y en a qui arrivent à le faire et c'est très bien, parce que c'est vrai que pendant cette semaine, on peut arriver à souffler un petit peu, autant physiquement que moralement. Donc il y en a qui prennent des vacances, hein, et finalement c'est très bien, parce que ils peuvent souffler un peu. Voilà.
Ouais. Vous avez peur, j'imagine, comme tout le monde, comme on en parle depuis un petit moment maintenant, peur de cette deuxième vague. La première a déjà été terrible, hein, pour les organismes, pour le service hospitalier. Et vous craignez justement qu'une deuxième vague arrive. Est-ce que vous pensez que vos services pourraient supporter cette deuxième vague si elle est de la même intensité que la première?
Alors, la supporter, honnêtement, je ne sais pas. En tous les cas, on sera là pour la supporter. Après, ce sera plutôt au niveau du matériel. Là, on sait que au niveau des masques, des blouses, on est bien. Après, ça sera plutôt sur les médicaments, notamment les curares, qu'on nous alerte un petit peu. Donc ce sera plutôt au niveau des médicaments que ça va peut-être coincer.
Mmh.
Voilà.
Bon, bah écoutez, on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Hein. Ce serait mieux pour tout le monde, pour vous, pour la France, pour les Français, ouais, évidemment. Et on vous souhaite de vous reposer un petit peu, Johanna, quand même. Hein. Et merci, ouais, encore pour tout ce que vous avez fait, vous et vos collègues. Depuis deux mois maintenant, vous avez permis à la population française de s'en sortir le mieux possible.
Le mieux possible,
merci beaucoup. Vous êtes des héros et tout le monde le reconnaît et tous les Français le concèdent tous les soirs à 20h. Merci beaucoup, Johanna.
C'est gentil. Merci
à vous. Un peu de repos, ça vous fera pas de mal. Je vous promets. 11h31, dans un instant, Guillaume, on part à la plage. C'est pas le plus indiqué pour éviter la deuxième vague. Mais comme tout le monde réclame la réouverture des plages, on va voir ce qu'en pensent les Bretons, par
exactement,
exemple.
Exactement, on va parler de nos amis bretons qui vont pouvoir retourner sur leur plage, mais de manière progressive. Il est 11h31 sur RMC.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.
RMC Mobilisation Générale. Plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
11h33 sur RMC Mobilisation Générale. C'est jusqu'à 13h. La sortie du confinement va coïncider ce lundi avec une journée maussade, tout du moins sur le nord du pays. La pluie, le vent, les températures frisquettes qui frustreront un peu moins les habitants du littoral de l'Atlantique et de la Manche. Guillaume qui demande à ce que l'on rouvre leurs plages. C'est le cas notamment des Bretons qui en ont marre de ne pas pouvoir se balader sur le bord de mer.
Et oui, c'est une frustration qui prédominait chez beaucoup de Bretons pour qui se rendre sur les plages est une bouffée d'oxygène. Alors, les annonces du gouvernement jeudi sont allées dans le sens de ce que réclamait la population. La région peut en effet rouvrir ses plages, réouverture soumise à l'autorisation du préfet après demande des maires de chaque commune. Lucas Vinoy est avec nous sur ce plateau. Salut Lucas.
Bonjour Guillaume, salut Christophe, bonjour à tous.
Voilà un qui a besoin d'aller, ouais, chez le coiffeur par exemple,
c'est
tu vois.
C'est le moins qu'on puisse dire. La région, la Bretagne a donc remporté son combat, Lucas.
Oui, la mobilisation des élus bretons a donc porté ses fruits grâce notamment à une pétition intitulée « Rouvrir les plages du littoral pour la pratique d'une activité sportive ». 92 400 personnes l'ont signée et depuis, on ne résiste pas aux bretons, le gouvernement a infléchi sa position puisque lors du premier plan de déconfinement, Édouard Philippe annonçait le 28 avril que les plages ne rouvriraient que le 2 juin. Mais ce jeudi, le Premier ministre a donc desserré le carcan avant que Christophe Castaner n'apporte quelques précisions. En effet, l'accès aux plages sera donc possible à partir du 11 mai, mais attention, au cas par cas et sur demande des maires, le préfet pourra l'autoriser dans le cas où les aménagements sont suffisants pour garantir la distanciation physique. Lundi, aucune plage ne devrait être ouverte. Il faudra d'abord présenter un cahier des charges très strict. En revanche, mercredi ou jeudi, il sera sûrement de nouveau possible de fouler le sable de certaines plages et y réaliser quelques châteaux.
Très bien, merci Lucas. On ne résiste pas aux Bretons. Voilà qui va faire plaisir, j'imagine, à Loïc Chesnais-Girard, qui est président de la région Bretagne. Bonjour, monsieur Chesnais-Girard.
Bonjour.
Bon, hein, vous voyez, on ne résiste pas aux Bretons. Pourtant, on le sait, dans Astérix, les petits villages bretons résistent aux envahisseurs et aux diktats imposés par Paris, souvent. Est-ce que vous êtes satisfait, justement, de cette annonce du Premier ministre et de cette réouverture possible dans les jours qui viennent ?
Oui, c'est une très grande avancée. C'est effectivement une très bonne idée et une très bonne solution. Nous la proposions de donner la main aux maires. Les maires connaissent leur littoral. Ils savent comment organiser les choses. Et donc, ça va bien se passer. Les réunions ont commencé depuis jeudi soir. Hier encore toute la journée, beaucoup d'échanges pour trouver des solutions, pour effectivement pouvoir faire des châteaux sur le sable peut-être, mais aussi surtout pour pratiquer le sport que les uns les autres aiment ici dans ce territoire, des sports d'eau, des sports d'air, des sports sur l'eau, sous l'eau, dans l'air, avec tout ce qu'on peut pratiquer sur les plages bretonnes. Et là, pour le coup, la distanciation sociale, il n'y a pas de problème. On a des étendues très très vastes.
Ouais. Alors, je crois que d'ores et déjà, les activités nautiques sont autorisées. Le problème, c'est que pour aller à la mer, il faut passer par la plage, et là, c'est interdit. Donc là, c'est un peu compliqué à résoudre.
Alors, pour être précis, le plan d'eau sera ouvert que demain. L'accès à la mer ne sera ouvert que demain, puisque les règles vont pouvoir s'ouvrir là-dessus. Donc, tous ceux qui partent d'un port, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est voile, tout ce qui est nautisme, il n'y a pas de difficulté. Là où il y a des difficultés, c'est le départ plage. Et le départ plage, c'est quoi ? C'est le surf, c'est le paddle, c'est le kite. Et là, il faut effectivement définir les règles, que les maires précisent comment les choses peuvent se passer pour qu'on puisse ne pas être en infraction sur la plage avant de se retrouver sur l'eau. Voilà. Et ça, c'est un boulot qui est en train de se faire. Et je peux vous dire que tout le monde est très motivé pour trouver la solution. Et comme on sait que lundi, mardi, il y aura plein de vent et que ce ne sera pas pratique de pratiquer ce type de sport, on a 2-3 jours devant nous. Donc tout le monde est serein et détendu. On va y arriver.
Alors, monsieur Chesnais-Girard, c'était une annonce, une information donnée notamment par Michèle Quiry, qui est la préfète de la région. Aucune plage, on est d'accord, ne sera ouverte le 11 mai. Hein, ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, c'est acté.
Alors, le préfet du Finistère a laissé entendre qu'il pourrait signer un ou deux arrêtés sur quelques plages précises dès demain, dimanche, pour que lundi, ça puisse ouvrir. Mais effectivement, globalement, la préfète Quiry a raison. Les arrêtés seront signés lundi, mardi, mercredi, parce qu'il faut regarder concrètement comment les choses vont s'organiser sur chacune des plages. Donc, on a une très bonne solution. C'est le pragmatisme de terrain. C'est la solution aux élus locaux. C'est les maires qui trouvent des solutions. On a 2-3 jours, effectivement, pour s'organiser. Et effectivement, juridiquement, ce sera peut-être pas lundi matin, ce sera peut-être mardi ou mercredi selon les cas, mais je ne suis pas du tout inquiet, ça va bouger. Et les élus locaux, encore une fois, sont souples, réactifs, en plus d'être de temps en temps effectivement des grandes gueules, mais on sait organiser les choses sur le territoire.
Vous réalisez que pour les gens qui sont confinés dans leurs petits appartes dans les banlieues des grandes villes et qui ne vont donc pas pouvoir rallier le littoral, votre demande puisse agacer quelque peu,
je comprends que ça puisse agacer, je comprends que ça puisse même sembler être un caprice, mais d'abord nous avons beaucoup de compassion pour ceux qui vivent sur Paris ou en Grand Est, parce que actuellement ça doit être effectivement très compliqué. En plus ils vivent au niveau sanitaire les choses de manière beaucoup plus violente que nous, mais je rappelle que ces plages, ce littoral, cette mer, c'est notre manière de vivre. C'est notre manière de vivre au quotidien. C'est pas le plaisir d'une semaine l'été. C'est pour beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent en Bretagne, le sport du soir après le boulot, c'est sur la plage, c'est sur la mer. Et je peux comprendre que ça puisse heurter dans la période, mais c'est notre vie au quotidien pour tous ceux qui vivent sur la côte.
Monsieur Chesnais-Girard, ça peut être éventuellement le revers de la médaille. Si jamais la distance des 100 km est levée, est-ce que vous craignez une ruée vers les plages, vers vos plages ?
Je pense qu'il faudra rester prudents tous et qu'il va falloir jouer sur la fibre sociale. Chacun joue son rôle dans la société, chacun assume ses responsabilités et il faudra faire en sorte que cette distanciation s'applique tout au long de la période de risque. Et je connais pas la fin de la période de risque. Donc nous avons bien conscience que pour la partie mai-juin, on va pouvoir gérer puisqu'on gère quelque part à domicile avec les habitants. La question, c'est comment ça se passe en juillet-août et ou à partir du moment où la limite des 100 km sera levée. Là, il faut commencer à y réfléchir, commencer à phosphorer là-dessus. Mais vous savez, en juillet-août, d'habitude, même si on a le plaisir d'accueillir beaucoup, beaucoup de monde en Bretagne, vu les kilomètres de littoral, vu les kilomètres de côte, de chemin, on a rarement des situations où on est les uns sur les autres en Bretagne.
Ouais, même si là, vous savez que les Français vont pas pouvoir partir à l'étranger, donc ils vont sans doute se ruer vers la Bretagne. Alors, j'imagine que le tourisme, on a besoin, parce que le tourisme breton, enfin, est important, et là, il est complètement à l'arrêt depuis le début de ce confinement. Donc, il y a en même temps l'envie d'accueillir des touristes, mais un peu l'appréhension que ceci amène la maladie, comme ça a été le cas d'ailleurs au début du confinement, lorsque les Parisiens, hein, ces hordes de barbares, ont débarqué dans plusieurs régions de France, monsieur Chesnais.
Ouais, vous avez vu qu'il y a eu des réactions un peu vives, et j'ai regretté ces réactions. On a le plaisir d'avoir des Parisiens, par exemple, qui ont des maisons de vacances ici, et ils ont souhaité vivre leur confinement là. Je rappelle que le gouvernement avait donné plusieurs heures avant le confinement. Le confinement a été annoncé pour, de mémoire, le lendemain à midi. Et donc, une partie de la population parisienne est partie dans les territoires de France, notamment la Bretagne. Il y a eu des réactions de peur. Je les ai regrettées. Nous sommes un territoire, bien entendu, accueillant. On est fiers d'accueillir toutes celles et ceux qui aiment notre territoire. Mais il faut garder, effectivement, les gestes barrières. Et on voit qu'il n'y a pas eu de surcrise. On n'a pas vécu d'augmentation de l'épidémie en Bretagne. Ça montre bien que ce ne sont pas les Parisiens qui sont un danger pour la Bretagne. Je n'ai pas d'inquiétude. Par contre, il va falloir bien gérer le sujet du tourisme. On est partagé entre la passion qu'on a pour cette activité qui est disséminée sur le territoire et qui fait vivre beaucoup de nos concitoyens. Et bien entendu, il va falloir relancer les choses. Et en parallèle, ce sujet, effectivement, du risque sanitaire, et il va falloir trouver des solutions, mais on sait inventer des choses, et notre tourisme est un tourisme diffus. Notre tourisme est un tourisme disséminé sur l'ensemble du territoire, c'est pas un tourisme concentré sur 2-3 spots.
Monsieur Chesnais-Girard, je sais pas si vous allez avoir la réponse à ma question, mais est-ce que vous avez fait des études sur l'impact environnemental du confinement sur les plages? J'entends par là sur l'écosystème marin en Bretagne.
Tout à fait. Enfin, moi, j'ai pas fait l'étude à titre personnel, mais des associations travaillent sur ce sujet. Nous avons des observations en cours, même si on doit pas se rendre sur le littoral, donc c'est compliqué d'observer les choses. Mais les retours que j'ai, c'est qu'il y a des oiseaux qui nichent sur les plages là où effectivement ils étaient dérangés précédemment. Il y a des espèces de littoral qui retrouvent leurs aises. Et puis, vous voyez des herbes pousser sur certaines plages que nous ne voyons plus dans le passé. Donc, ça mérite effectivement de se poser quelques questions. Nous avons déjà beaucoup protégé, vous savez, les dunes, beaucoup protégé les espaces côtiers pour que les plantes locales puissent tenir le sable et retrouver des paysages qui correspondent à ce que nous voulons, c'est-à-dire des paysages sauvages, globalement, en Bretagne. Et là, la période que nous vivons mérite de se poser quelques questions. En plus des espaces déjà protégés, je rappelle que nous avons beaucoup de parcs naturels et nous en sommes très fiers.
Très bien, merci beaucoup Loïc Chesnais-Girard, donc président de la région Bretagne. Les plages vont pouvoir réouvrir avec parcimonie dans les jours à venir. Merci beaucoup. Et on accueille justement un autre Breton qui, j'imagine, va être ravi de cette annonce. On est avec Franck, je crois, c'est ça, Guillaume?
Oui, Franck, administrateur de la...
C'est un pseudo, hein, parce qu'il
c'est
reste...
C'est un pseudo, il veut rester dans l'anonymat. Administrateur de la page Facebook Front Malouin de Libération, de la plage et de la baignade. Voilà pour le programme groupe qui regroupe 2500 personnes. L'idée, c'est de faire passer des messages, d'essayer à votre échelle, si je ne dis pas de bêtises, Franck, d'avoir une petite influence dans la réouverture des plages. La preuve, c'est que ça a fonctionné. C'est en bonne voie.
Tout à fait, même si je dois bien avouer avoir été surpris et complètement dépassé par l'amplitude que ça a pris. On a commencé en mettant quelques petites affichettes plutôt humoristiques pour... faire passer notre envie de retourner à la plage et puis notre envie de faire sourire les gens parce que en allant se balader autour, tout le monde regardait la mer et disait quand est-ce qu'on va pouvoir y retourner, et on s'est dit que refaire sourire les gens ce serait pas désagréable.
Au départ, c'était un peu dans l'esprit potache que vous avez fait ce truc-là. C'était un peu pour rigoler. C'était pas pour appeler à la désobéissance civile ou même pour mettre la pression sur le gouvernement. C'était pour se marrer finalement.
C'était pour se marrer et rendez-nous le plus vite possible l'accès à la plage, mais pas du tout pour mettre la pression sur qui que ce soit. La page du groupe l'indique bien, on n'est pas là pour contester les mesures sanitaires ni appeler à ne pas les respecter. Et j'insiste là-dessus, c'est pas du tout l'objectif.
Ouais, j'ai vu quelques petits messages sympathiques sur votre page Facebook. Je suis très inquiet pour mon ami Bernard. Il vit en ermite à la plage et je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Rien ne sert de courir, il faut nager à point. Ou encore, allons surfeur de Saint-Malo, le jour du bain est arrivé. Voilà ce genre de messages qu'on trouvait sur votre groupe Facebook, qu'on trouve toujours d'ailleurs sur votre groupe Facebook, Franck.
C'est exactement le style de message que je voulais faire passer au début et ça a très bien pris localement.
Oui, Franck.
Oui, je vous en prie.
Oui. Vous n'en avez pas un peu trop fait avec votre page Facebook? Je veux dire, par là, Christophe en parlait tout à l'heure, à Paris, on n'a pas la mer, on a toujours nos parcs et nos jardins fermés. Ça crée des différences de traitement entre les Français, quoi.
C'était pas du tout l'objectif, et si c'est perçu comme ça, j'en présente mes excuses à tous les gens qui le perçoivent de la manière, de cette manière-là. Nous, l'objectif, c'était vraiment de dire ma mère, c'est important dans notre vie, tous les jours, c'est quelque chose qu'on aime, et on a envie d'y retourner.
Bon, Franck, ça va peut-être ouvrir dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez à la plage? Vous allez vous allonger sur le sable, prendre le soleil, s'il y en a un peu, parce que c'est pas gagné là maintenant, hein. Il a fait beau pendant tout le confinement, mais là on nous annonce un temps catastrophique pour les jours à venir. Vous allez faire du kitesurf, vous allez pêcher aller trouver des coquillages. Qu'est-ce que vous allez faire?
Déjà, je vais aller mettre les pieds dans l'eau pour voir à quelle température elle est.
Ah oui, oui. Ouais.
Et si elle est suffisamment bonne et que le temps le permet, probablement aller nager un petit peu. Enfin, nager un bain, plus du moins.
Un petit bain, oui, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. On est début mai et on est en Bretagne. Hein. Ce n'est pas non plus les Caraïbes. Merci en tout cas, Franck. Donc, on rappelle qu'on peut se joindre à votre groupe Facebook qui répond du doux nom de Front Malouin de Libération de la Plage et de la Baignade. Voilà, c'était un petit clin d'œil à nos amis bretons qui résistent vaillamment contre l'envahisseur et qui veulent obtenir la réouverture de leur plage. Eh bien, c'est en bonne voie, mon cher Guillaume. 11h47 sur RMC. Merci à Franck de nous avoir accompagnés. Dans un instant, s'il répond, parce que là, on a un petit problème avec notre chef.
C'est ce que j'ai cru comprendre en le voyant il y a quelques instants. Là,
il est peut-être dans
peur.
Sa cuisine.
J'espère.
Il est peut-être dans sa cuisine en train de faire déjà des plats pour midi, quoi. On approche de midi.
Ouais, ne soyons pas privés de notre pause salutaire, la pause culinaire avec notre chef cuisinier Yves Cantebord, qu'on va essayer de retrouver dans quelques instants. Il est 11h47 sur RMC.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
11h49 sur RMC, Mobilisation Générale qui se poursuit jusqu'à 13h. Dans un petit quart d'heure maintenant, on va déconfiner nos grandes gueules qui nous rejoignent comme c'est le cas tous les samedis et tous les dimanches pour la dernière heure de Mobilisation Générale. Et avec eux, nous allons notamment évoquer l'histoire du football allemand, hein, puisqu'on on le rappelle, Guillaume, en Allemagne, on va pouvoir reprendre le championnat la semaine prochaine, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes au football français qui, lui, on le rappelle, a décidé bien d'arrêter complètement son championnat.
Arrêter la Ligue 1, la Ligue 2, on vous le rappelle effectivement. C'est vrai que c'est un événement de revoir la Bundesliga, le championnat d'Allemagne qui va donc reprendre ses droits la semaine prochaine. Il y aura une première rencontre le 16 mai, pour être tout à fait précis, entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. C'est le premier gros championnat européen, exactement. C'est le premier gros championnat européen à reprendre à partir de midi. Loïc Tanzi sera avec nous en plateau avec les toutes dernières informations. Nous serons en Allemagne notamment avec Sophie Serbini.
Très bien. Et puis, on vous le rappelle, c'est le dernier week-end de Mobilisation Générale, puisqu'à partir de lundi, on sort de ce confinement. Donc, on continuera évidemment de vous informer sur tous les aspects de cette crise qui est loin d'être terminée. Une nouvelle entité, une nouvelle identité va voir le jour à partir de lundi. Ça s'appellera Paris C'est la sortie. Et nous, dès le week-end prochain, eh bien, nous repassons en mode habituel avec les grandes gueules du sport qui auront lieu de 11h à 13h. Et puis, même un nouveau jeu qui s'intitulera RMC Sport Game et qui aura lieu tous les samedis et tous les dimanches matin entre 10h et 11h et dont le grand architecte est avec nous, puisque le grand architecte c'est Pierre Amiche, notre producteur, qui est un penseur, hein, qui a réfléchi à ce jeu.
Pas très longtemps
va
quand
dans...
même.
Oui, ouais, quand même, il a pas mal réfléchi. Salut Pierrot, comment ça va?
Ça va bien. Yves Candebord ne peut pas être avec nous ce matin, mais rassurez-vous, il m'a donné toutes ses recettes que je vais essayer de partager avec ma modeste expérience de cuisine.
Tu as fait la cuisine, toi, pendant les deux mois de confinement?
Oui, j'ai eu cette chance-là.
T'as fait quoi, par exemple, en gros?
Franchement, j'ai fait des tas de trucs. Plutôt le poisson, j'adore le poisson, mais j'ai eu la chance de faire des pot-au-feu. Faut les faire les mijoter le plus longtemps possible. Le meilleur, c'est le lendemain quand on les réchauffe avec tous les petits légumes qui se sont confits dans la sauce et surtout dans les parfums de viande. Voilà, c'est ce que je préfère moi personnellement.
D'accord. Donc tu t'es fait il se fait des petits pot-au-feu le soir tranquille avec lui.
On démarre le midi pour le lendemain midi. Hein, on le laisse.
C'est meilleur le deuxième jour que le premier.
Ça embaume l'appartement ou la maison tout au long de la journée. Guillaume, tu t'es mis à la cuisine toi pendant
Franchement, oui. Ouais. Oui, avec madame, oui. Pareil, poisson, pas mal de quiche. On remange des légumes, on essaye de manger sain. Donc voilà, ça a pris du temps, mais ça fait plaisir.
Et on verra demain que les Français se sont plutôt bien comportés à table. Et
plus 3 kilos sur la
fourchette,
base.
C'est entre 2,5 kilos et 3 kilos de plus pour les Français depuis le début.
C'est parce qu'on bouge moins, je pense.
Oui, c'est parce qu'on bouge moins, on picole plus et on mange plus. Hein, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, il faut bien se faire plaisir lorsqu'il n'y a plus de plaisir ailleurs. Et donc, ça a été l'une des façons de lutter efficacement contre cette crise. Alors, Yves Candebord n'est pas avec nous, c'est dommage, on aurait voulu lui dire au revoir quand même parce qu'il nous a accompagnés durant ces 8 semaines. On lui a promis qu'on irait avec toute l'équipe de Mobilisation Générale dans son restaurant avec Richard Pujols lorsqu'il aura été déconfiné d'Angleterre. Rassurez-vous, tout va bien pour Richard. Il est au bord de la plage en Angleterre avec un jacuzzi au bord de la mer. Il est très très bien, notre ami anglais, mais il sera là dans quelques semaines. Alors Pierre, Yves n'est pas là, mais il t'a donc donné un petit menu,
deux recettes. La première, elle est toute simple et pas très chère. C'est un crémeux de saumon fumé, céleri rare et châtaigne. Donc ça c'est plus pour l'entrée. Il vous faut seulement 100 grammes de saumon, donc ne criez pas au scandale, ça ne sera pas très onéreux. Une boule de céleri rave de 500 grammes environ, donc une boule de céleri rave classique, et puis 500 grammes de châtaigne épluchée ou surgelée. Vous pouvez les trouver dans vos magasins surgelés ou dans des bocaux tout simplement, ça se vend durant toute l'année. C'est pas forcément de saison, on sait que c'est le début du printemps, mais en tout cas si jamais ça se rafraîchit, ce sera un plat parfait. Pour ça c'est très simple, vous coupez le saumon en petits dés. Vous les réservez, vous les mettez de côté. Et ensuite, vous épluchez, vous lavez le céleri. Il faut le couper en gros morceaux et le mettre dans une casserole avec les châtaignes, les perles du Japon et 1 demi-litre d'eau salée poivrée jusqu'à ébullition, jusqu'à ce que le céleri soit un peu ramolli. Voilà, que vous puissiez planter la fourchette et qu'elle reste bien plantée dedans. Égouttez dans une passoire et il faut conserver le jus de cuisson. C'est très important.
Je suis pas un grand fan du céleri, hein, donc si t'as
oui, mais justement, truc, cette recette-là, elle peut te réconcilier parce que la douceur de la châtaigne va compenser ce que t'aimes pas trop dans le céleri. Ensuite, vous les mettez de côté avec notamment le jus de cuisson. Faut pas le foutre en l'air, hein. Le jus de cuisson, c'est toujours un jus qui va prendre le goût du légume et on peut réutiliser notamment pour délayer les sauces. C'est ce qu'on va faire en mixant les légumes encore chauds et en versant petit à petit le jus de cuisson jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse là-dedans. Et c'est très facile. Vous rajoutez les perles du Japon. Puis, une fois que c'est frais, vous le réservez. Et une fois que c'est froid, vous rajoutez les dés de saumon pour pas que ce soit cuit. Dans chaque assiette creuse, quelques petites cubes de saumon, une demi-assiette de cette crème. Et c'est fini. Voilà, ça vous prend globalement un quart d'heure pour manger quelque chose de très bon.
Très bien, voilà. Bon, alors, moi, je suis pas un grand fan de céleri. T'as d'autres choses quand même à me proposer? Un truc un peu plus consistant?
Je peux te proposer du poisson blanc, du Saint-Pierre, accompagné d'un pistou de légumes. Ça devrait te parler de l'histoire.
Ça, c'est pas mal.
Basilic et cacahuètes. Ce qui fait que
l'ambiance,
pas mal.
Des saveurs doit être pas mal, effectivement.
J'ai l'impression que ça vous plaît déjà plus. Alors, c'est pour 4 personnes. Faut compter environ 1h30. Il y a 20 minutes de préparation, 1 heure de cuisson et 25 minutes de temps total. Donc, voilà, ça va aller assez vite. 4 filets de Saint-Pierre de 200 grammes. On peut remplacer par du cabillaud. Le Saint-Pierre, c'est assez cher. Donc, si vous n'avez pas les moyens, préférez du cabillaud. 2 artichauts, 2 tomates, des petits pois, des haricots, des pois gourmands, tous les légumes qui vous inspirent et qui sont de saison. Du basilic, de la betterave, de la carotte nouvelle, du citron vert. Tout ça, c'est accessoire, mais on peut le rajouter. Et ce qui est important, sauce soja, 100 grammes de cacahuètes, sel, poivre et une pincée de piment d'Espelette. Et oui, bah oui, on essaye d'être un peu éclectique et de mélanger les cultures. Le départ, c'est très simple. Vous plongez les tomates dans l'eau bouillante, puis dans l'eau gelée. Pourquoi ? C'est pour pouvoir les éplucher plus facilement et retirer la peau. Vous les coupez en 4, retirez les pépins, salez, poivrez, filet d'huile d'olive et c'est terminé pour les tomates. Derrière, pour les carottes, vous les coupez en rondelles, les découpez finement la betterave pour l'accompagner. Vous mettez tout ça dans une casserole d'eau avec pas trop d'eau et un tout petit peu de sucre, de sel et de piment d'Espelette. Et là, c'est royal, les carottes vont être superbes avec les betteraves. Ensuite, vinaigrette d'huile d'olive. C'est très simple, hein. Jus de citron vert, sauce soja, basilic ciselé et cacahuètes. Ça vous fait quelque chose d'inspiration un peu asiatique et ça accompagnera parfaitement et vos carottes, vos betteraves. Et le plus important, c'est le poisson. Le poisson, comment on est sûr qu'il est cuit ? Vapeur, 2 minutes. Si vous plantez le couteau, vous écartez légèrement, il doit être nacré. S'il est tout blanc jusqu'au bout, c'est qu'il est trop cuit. Vous l'avez flingué.
Tu le jettes à la poubelle.
Ce ne sera plus très bon. Et vous servez ça. Normalement, ça se mange ou froid ou chaud et c'est très bon. Voilà, merci beaucoup Yves pour les recettes en tout cas.
Ah ouais. Non mais alors le but c'est que tu nous prépares ça pour demain, Pierrot.
Bon, j'aurais jamais le temps, j'ai une émission à préparer. Bon, moi.
Non, ça va, tu peux avoir du temps pour te consacrer à la cuisine. On verra ça demain matin si c'est bon. Hein, le poisson pas trop cuit s'il te plaît. 11h57, voilà pour les recettes d'Yves Candebord qui malheureusement n'était pas avec nous, mais il a pu donner quelques indications à notre chef, à nous, Pierre Amiche. 11h57 dans un instant les infos de midi. Juste après donc on accueille nos grandes gueules pour évoquer notamment le cas de la Bundesliga, le championnat qui va rouvrir ses portes le week-end prochain. À tout de suite.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.